Alors rares sont les œuvres dont la réception fut plus problématique, passionnée et contradictoire que celle des ouvrages de Machiavel, en particulier dans l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles. En effet, la radicalité et la lucidité corrosive d'œuvres telles que Le Prince, publié pour la première fois en 1532, et Les discours sur la première décade de Tite-Live, publié pour la première fois en 1531, ont suscité parmi les lecteurs de la péninsule ibérique une profonde fascination mêlée d'indignation. En dépit de ce que pourrait laisser penser des œuvres au titre évocateur, à l'instar du machiavélisme Degollado de Claudio Clemente ou le Principe Cristiano contra Machiavello du Padre de Rivadeneira de 1595, Machiavel a été lu, médité dans l'Espagne de l'âge baroque et a eu un impact décisif sur le cours de la pensée politique du siècle d'or. Pour bien comprendre les enjeux de la réaction espagnole aux idées du Florentin, il est impératif d'avoir à l'esprit que les œuvres de Machiavel furent progressivement interdites, inscrite tout d'abord parmi les pages de l'Index Librorum Prohibitorum par le Vatican en 1559, puis interdite dans les territoires de la cour en espagnol par l'Index du cardinal Quiroga en 1583. Entre 1521, année de la publication de la première œuvre du secrétaire florentin, De l'arte de la guerra, et l'interdiction de 1583, soit près de 60 ans, les œuvres du corpus machiavélien ont ainsi pu librement circuler dans la péninsule ibérique, et certaines d'entre elles ont même été traduites en espagnol, hein, traductions sur lesquelles je vous propose de nous pencher ensemble dans la présente étude. Alors nous étudierons ainsi trois traductions de l'œuvre de Machiavel, réalisées à des périodes différentes, à savoir le Tratado de Re Militari, qui est une traduction de l'Arte de la Guerra par Diego de Salazar, publié en 1536, puis les Discursos de Nicolao Machiavelli, qui sont en réalité une traduction des discours sur la première décade de Tite-Live, réalisé par Juan Lorenzo Tevanti, publié une première fois en 1552, puis en 1555. Et enfin, une traduction anonyme et manuscrite du prince, datant probablement du début du XVIIe siècle, ou de la toute fin du XVIe. Alors, plus qu'à Machiavel, c'est certainement finalement à ces lecteurs espagnols que nous nous intéresserons avant tout. Hein, chacun des textes, dans leur traduction, pourrait ainsi nous éclairer à la fois sur le contexte de leur époque de production, mais également sur la réception de certains des concepts et idées machiavéliens dans le cadre de la pensée ibérique. Alors, en comparaison des autres pays d'Europe, le nombre de traductions de Machiavel en espagnol semble peu élevé, hein, y compris compte tenu de l'interdit inquisitorial. Selon Elena Puigdomènech Forcada, la raison est à chercher dans le fait que de telles traductions n'étaient en réalité pas nécessaires pour un lectorat espagnol fréquemment italophone et pour qui l'italien et le toscan devaient sembler relativement limpides. Au XVIe et XVIIe siècle, de nombreux militaires, diplomates, fonctionnaires, ecclésiastiques espagnols font ainsi une partie de leur carrière en Italie. De nombreux artistes font le fameux voyage en Italie également. De nombreux étudiants et enseignants font une partie de leurs études en Italie également. Donc tous ces lecteurs, en puissance, ont ainsi pu lire le texte dans sa langue originale. Et on peut raisonnablement supposer que certains d'entre eux ont même pu ramener en Espagne les œuvres de Machiavel dans leur édition romaine ou florentine. C'est ce que laisse penser la présence des œuvres du Florentin en version originale dans certaines bibliothèques de la péninsule ibérique, et inversement, de nombreux marchands intellectuels italiens étaient présents en Espagne, à l'instar donc du traducteur des discours sur la première décade de Tite-Live dans la langue de Cervantes, en l'occurrence donc Juan Lorenzo Otevanti. Donc, dans notre étude, nous accorderons une attention particulière à deux éléments spécifiques. Les paratextes, qui souvent en disent long sur l'accueil réservé à un moment donné aux idées de Machiavel, ainsi que les quelques notes et commentaires marginaux ajoutés parfois au texte machiavélien. Également, autre élément sur lequel nous nous pencherons en détail, c'est les traductions en elles-mêmes. Quant au choix de disposition et de traduction, là où se fait naturellement le plus manifeste la présence du traducteur, ainsi que les choix de traduction de certains concepts machiavéliens spécifiques, en particulier la polysémique et épineuse virtu. Donc commençons avec, sans plus attendre, avec le premier de ces textes, hein, dans la chronologie. Donc cette « De l'arte de la guerra », rebaptisée en Espagne « El Tratado de Re Militari » de 1536. Hein, cette édition la plus ancienne est donc bien de 1536, éditée à Alcalá de Henares chez Miguel de Aguilla. Il s'agit par ailleurs de la plus ancienne traduction de ce texte depuis l'italien. Quelques informations sur le traducteur, auteur de ce traité d'art militaire, hein, c'est Diego de Salazar, hein, qui fut militaire et servi, d'après ce qu'il nous dit, dans les guerres d'Italie, sous les ordres du Grand Capitaine, hein, Fernandez de Córdoba. Toutefois, je crains de voir reconnaître que nous n'en savons guère plus, hein, Curieusement, d'ailleurs, son nom n'apparaît que qu'en tête du second livre de ce traité de Re Militari, dont le titre est le suivant: Libro segundo del arte de la guerra, sacado de muchas escrituras y usos antiguos y modernos por el capitán Diego de Salazar. Voilà, ça arrive assez tardivement dans le texte. Deux aspects intéressants de cette traduction sont à relever. Son prologue, qui révèle que Diego de Salazar, le traducteur, n'est pas dupe sur les conséquents emprunts que Machiavel fait au traité de Re Militari du polémologue latin Végès, dont nous parlions plus tôt ce matin dans l'intervention de Mathias. Et également, ce qui est intéressant, c'est son travail de transposition dans le milieu historico-culturel espagnol. Je m'en explique plus avant. Alors, concernant le prologue, il reprend presque mot pour mot le texte de la dédicace originale adressée par Machiavel à Lorenzo di Filippo Strozzi, dont l'idée essentielle est que la vertu militaire s'est laissée corrompre et qu'il est temps de la réactiver, hein, la vertu militaire des anciens. Cependant, là où Machiavel disait qu'il ne voulait pas laisser perdre le savoir, pardon, qu'il a accumulé sur les choses militaires par ses lectures, en dépit du fait qu'il n'est pas militaire lui-même, Salazar insiste sur le fait que c'est précisément en tant que militaire, donc il a une autorité, un militaire expérimenté, qu'il se permet de traiter d'un tel sujet. C'est également le sort réservé dans ce prologue à Machiavel lui-même, c'est ce traitement qui mérite, je crois, le plus notre attention, puisque je cite Salazar ici: Juzgando por lo que he visto que sería imposible apartar a los presentes guerreros de la Comunión Santa, he deliberado, por no parezca que el tiempo que yo he militado se me ha pasado ignorando las cosas necesarias a la milicia, colegir de las órdenes antiguas parte de lo que he hallado escrito y de las modernas partes de lo que he experimentado y copilar el presente tratado, imitando a muchos autores antiguos y modernos, siguiendo más que a los otros el parecer de Maquiavelo. D'ailleurs, écrit Machiavello, d'ailleurs. Porque imita el adagio, hein, vous voyez, il est lucide sur la source exacte de Machiavel, que Machiavel d'ailleurs s'abstient de citer. Porque imita el adagio y casi como intérprete de los otros autores, escribir en nuestra castellana lengua este diálogo entre el gran capitán y el duque de Najara, en el cual se tratan y disputan todas las cosas necesarias a la guerra. Donc, Salazar a ainsi bien compris que de l'arte de la guerra, dont Machiavel prétendait à la paternité exclusive, est à ce point a été influencé par le De re militari de Végès que Machiavel, aux yeux de Salazar, peut tout juste prétendre au statut d'exégète, finalement. Salazar reconnaît l'art de la guerre, dans les mots de Sidney Anglo, comme « reworking of ancient texts » et accorde bien plus d'égard, finalement, à la source originale que Machiavel lui-même ne semble le faire. Toutefois, notre traducteur ne se considère pas non plus, lui, comme un traducteur, hein. Il établit un lien de familiarité avec ces deux auteurs, mais semble estimer que cette œuvre est la sienne également. C'est une œuvre originale, selon lui. Et cette originalité en particulier est surtout due à son travail de transposition du dialogue, d'adaptation du texte original pour le rendre plus familier à un lectorat ibérique. Alors, si le texte végétien se présente sous la forme d'un traité pur et dur, on pourrait dire, dans sa forme, Machiavel a choisi celle du dialogue, hein, très en vogue à la Renaissance, naturellement. Dans son Arte della Guerra, le Florentin prétendait ainsi rapporter une discussion qu'il aurait entendue dans le cadre des Orti Rucellai, hein, un jardin de Florence où des humanistes passionnés de romanité se retrouvaient pour échanger leurs découvertes. Et dans le texte source, je vous rappelle, les deux interlocuteurs essentiels étaient Cosimo Rucellai, hein, donc un humaniste florentin, et Fabrizio Colonna, hein, qui est un condottiere célèbre, qui représentent tour à tour donc des aspects théoriques et pratiques des différentes questions polémologiques. Salazar se défait de ce cadre florentin et remplace donc Cosimo Rucellai par Pedro Manrique de Lara et Fabrizio Colonna par Gonzalo Fernández de Córdoba, donc le grand capitaine. Il conserve donc le locus amenus du jardin et prétend, à l'instar du florentin, rapporter ici le détail d'une conversation que les deux interlocuteurs ont tenue sur l'art militaire. Il faut noter que là où Machiavel ajoutera d'autres interlocuteurs pour varier un peu les points de vue, Salazar se contente de ces deux personnages qui phagocyteront les rôles supplémentaires du texte machiavélien. Et hormis cela, hein, Salazar est globalement fidèle au rôle attribué à chaque instance du discours dans l'original florentin. Alors, dans les faits, j'insiste, il s'agit bien d'une traduction relativement fidèle de l'original florentin. Ainsi, donc, voilà, circulent dans l'Espagne, corroborées par l'expérience historique du grand capitaine, les idées de l'humanisme militaire de racines antiques de Machiavel, portant, je vous le rappelle, sur la nécessité de troupes propres, d'une infanterie solide et disciplinée, hein, l'hostilité envers les mercenaires, la constitution de milices citoyennes, etc. Néanmoins, Salazar se fait plus insistant sur le recours à l'artillerie et aux fortifications, deux points que Machiavel a pour sa part tendance à minimiser. Si de même il arrive que Salazar décroche des modèles de dispositions militaires de Machiavel pour proposer ses propres variations, et qu'il se sert du texte originel comme d'un canevas ou d'un support pour ses propres thèses, hein, ou encore d'ailleurs qu'il intègre au discours une réflexion sur les meilleures façons de vaincre les Turcs, les variations sont somme toute mineures et l'essentiel est tout de même là, hein, au point que l'on peut parler, avec Sidney Anglo, d'une version fairly close to the original, en somme d'une traduzione come opportuni adamenti e aggiornamenti dell'arte della guerra, dans les mots de Giuliano Procacci, moins finalement que les discours ou que le prince, hein, je crois que l'arte della guerra ne présente pas d'opinion qui pourrait faire l'objet de controverses, donc finalement, n'ont pas nécessité d'ajustement particulier de la part d'un traducteur espagnol. Notons cependant qu'un passage de l'original, qui aurait pu paraître tendancieux, a été traduit tel quel par Diego de Salazar. Il s'agit d'un extrait du chapitre 10 du livre 4, dans lequel Machiavel écrit, au sujet du recours à la religion comme d'un moyen d'haranguer les troupes, et je cite dans la traduction française de Christian Beck, « Nombreux sont ceux qui ont dit que Dieu leur était apparu en songe et les avait décidés à combattre, avant d'alléguer les exemples de Charles VII et de Jeanne d'Arc. La formulation est suffisamment vague pour laisser planer le doute sur l'authenticité de tels songes, mais Salazar ne s'en soucie guère, rend le texte sans en modifier le ton, si ce n'est pour lui donner une claire coloration locale. Et je cite, « Muchos otros decían que les aparecían los dioses en sueños y les prometían vencimiento, y aun entre nuestros cristianos ha habido quien decía que les aparecían en sueños Santiago y otros santos, como el Cid Ruy Díaz, y otros que podían ser ansi, como lo dicen las historias, que para más que aquellos basta la providencia y poder de Dios. » Il faut noter que parmi les textes du corpus machiavélien, l'art de la guerre est certainement dans les faits le plus influent. En atteste donc cette traduction et l'intense plagiat également dont il fera l'objet. Il faut noter aussi qu'en dépit de l'interdit inquisitorial de 1583, pesant sur les travaux du Florentin, au moins une réédition de ce texte, du Trattato de Re Militari, à Bruxelles, nous est connue en 1590, ce qui atteste à la fois de l'intérêt pour le volet proprement polémologique de la pensée du secrétaire florentin, mais également de la perméabilité hein, de l'interdit inquisitorial. Peut-être n'est-il pas évident, hein, toujours pas évident, que Machiavel était bien l'auteur principal de ce traité, un fait qui étaye un autre plagiat, je crois, en latin celui-ci, il s'agit dans le paysage hispanique, il s'agit du De Jure et Officiis Bellicis et Disciplina Militari de Baltasar de Ayala, publié à Anvers en 1597. Alors, une quinzaine d'années plus tard, un Florentin établi en Espagne dans les environs de Valladolid, Juan Lorenzo Ottevanti, traduit les Discorsi sopra la prima decade de Tito Livio, hein, les discours sur la première décade de Tito Livio, édité une première fois en 1552 à Medina del Campo et une deuxième fois en 1555 chez Guillermo de Milis. Machiavel, mort depuis 1527, est alors un auteur influent, populaire et prisé, y compris par l'empereur Charles Quint, lui-même qui, à en croire l'érudit vénitien Francisco Sansovino, comptait les discours parmi ses lectures de prédilection, aux côtés d'Histoire de Polybe et du livre du courtisan de Balthazar Castiglione. Comme le souligne Keith David Howard, l'Empire espagnol étant encore dans sa phase ascendante, les humanistes impériaux considèrent avec intérêt les travaux de Machiavel sur le modèle d'expansion de l'Empire romain, hein, qu'ils cherchent à comparer à celui de l'Empire des Habsbourg. Un des aspects les plus intéressants de cet ouvrage réside sans doute dans le privilège qui est au liminaire, qui témoigne de ce climat de relative bienveillance envers un auteur qui sera par la suite conspué avec une régularité et une intensité admirables. Dans ce privilège, Charles Quint reconnaît lire ses, je cite, ses discours de Nicolao Machiavelli, que está escrito en lengua toscana, pour sa récréation, nous dit-il, un fait qui, sud Ottevanti, est à l'origine donc de cette traduction. Dans ce même privilège, Charles Quint reconnaît de plus, avec le traducteur, que ce texte est, je cite, « muy útil y provechoso para cualquier príncipe » et approuve ainsi le projet de le rendre en castillan, ainsi que de le faire parvenir à son fils, hein, le futur Philippe II, lequel en est donc naturellement le dédicataire. Les discours sur Ottevanti juge essentiels pour comprendre, je cite, « la grandeza de los hechos de los antiguos romanos y de otros y de las antiguas repúblicas, compréhension qu'il souhaite faciliter afin que le prince héritier puisse venir en conocimiento » de lo que es necesario para añadir a su imperio lo que puede. Vous voyez vraiment une comparaison entre l'Empire romain et l'Empire, la couronne Habsbourg. S'appuyant sur l'édition romaine d'Antonio Blado de 1531, cette traduction présente des erreurs résiduelles en quantité et en qualité, et nous convenons avec le jugement d'Elena Puig Domènech Forcada, qu'il estime bastante fiel, et même, la plupart du temps, extremely literal, dans les mots de Keith David Howard, qui s'est chargé par ailleurs d'en éditer une version en 2016. Notons qu'Otevant fait le choix de traduire le concept machiavélien de virtu, par virtude, naturellement, sans ce qui semble, ce qui ne sera pas le cas, nous le verrons avec le traducteur anonyme du prince, et visiblement ça ne semble pas lui poser de problème. De même rend-il avec fidélité l'ensemble du lexique machiavélien, renvoyant à la vie civile et citoyenne, ce vivere libero ou vivere politico, traduit en espagnol vivir politico avec un Y d'hypercorrection, vivir libertad en espagnol, celui des régimes républicains, ce régime qui assure la liberté, la paix civile, le respect des lois et la participation des citoyens à la vie d'État, en quelques mots, un vivir civilmente y conquietude, avec pour seul souci la commune utilita, ou le bien commun, nous dit Otevant. Ce qui peut frapper l'historien des idées, au fait de la violente hostilité que Machiavel finira bien vite par susciter dans l'Espagne catholique, c'est la façon dont Otevanti rend sans l'atténuer la violence des opinions exposées par Machiavel, notamment dans le chapitre 9 du premier livre du discours, par exemple dans lesquels Romulus est loué pour avoir tué son frère, et fait très certainement assassiner Tatius Sabinus, son collègue au pouvoir, car de telles actions ont contribué à affermir l'État romain naissant et le respect des lois. Le fondateur d'une république doit être seul, nous dit Machiavel, et au regard des actions de Romulus, il note « Comine bene caccusandolo il fatto che lo effetto l'escusi », ce côté Vanti traduit très littéralement, cette phrase qu'on répète à nauseam, qu'on attribue à Machiavel très malheureusement, que la fin justifie les moyens, ce qui est faux. Là, vous avez la vraie formulation « Comine caccusandolo il fatto che lo effetto l'escusi ». À la lumière de telles considérations, les décisions du fondateur de Rome sont ainsi jugées comme celles d'un homme, je cite en espagnol, prudente y virtuoso, rendu donc tel quel par Otevanti, qui, nous l'avons dit, prendra le parti pris, au long du texte, de traduire le concept machiavélien de virtu par le syntagme virtud. La traduction d'Otevanti se fait certainement plus mesurée lorsque Machiavel, dans le 13e chapitre du premier livre, félicite les Romains qui ont su manipuler les auspices et autres signes religieux à leur avantage, en particulier dans des visées politiques, citoyennes et militaires. Là où Machiavel parle de façon décomplexée d'une religione usata bene, Otevanti édulcore un peu le propos en choisissant de parler d'une religion bien guardada. Cependant, notre traducteur n'opéra ainsi que de très rares atténuations quant aux positions, je vous disais, parfois extrêmes du secrétaire florentin. Il traduira ainsi tel quel le titre du chapitre 41 du troisième livre, lequel pourrait à bien des égards résumer l'essence du machiavélisme, que la patria si deve difendere o con ignomina o con gloria, e in qualunque modo è ben difesa, traduit ainsi donc, como la patria si deve defendere o con ignomina o con gloria, y que con cualquier manera es bien defendida. Un autre élément, je crois, ce sera le dernier, mérite mention dans notre étude de ces discours. La fidèle traduction d'un des chapitres de l'œuvre de Machiavel qui fera le plus polémique dans la querelle du machiavélisme en Espagne, à savoir le chapitre 2 du second livre des discours, portant sur l'obstination typiquement antique à défendre sa liberté. Comparant les temps anciens aux modernes, Machiavel juge que ses contemporains sont beaucoup moins enclins à défendre leur liberté et attribue cela aux différences existant entre la religion païenne des anciens et la religion chrétienne dans la version de la façon dont elle a été interprétée par ses contemporains. Si le secrétaire florentin reconnaît que le christianisme prêche bien la vérité, il n'est pas un athée ou un divergent de quelle sorte, il estime que c'est la vraie religion, il estime également que l'interprétation qu'on a faite de ses contemporains a fini par conduire les chrétiens au mépris des choses terrestres, à la contemplation, à l'humilité, à la passivité et en dernier lieu à la faiblesse. À l'inverse, la religion antique, citoyenne et guerrière, enjoignait ses ouailles à placer le bien public au-dessus de toute considération et à faire preuve au combat d'un courage, d'une férocité, d'une virtu, pour parler en termes machiavéliens, laquelle s'est clairement estompée avec l'essor du christianisme tel qu'il a été prêché par les contemporains de Machiavel à l'en croire. Rythmé par de sanglants sacrifices d'animaux, le culte païen avait ainsi le mérite, à en croire le Florentin, d'exciter l'ardeur guerrière des antiques, rendue plus acharnée au combat par la vue du sang. Des positions pour le moins controversées déjà à l'époque où Machiavel écrit, et qui seront violemment contestées tout au long du siècle d'or par les penseurs ibériques, très tôt d'ailleurs, des auteurs tels que Juan Ginés de Sepúlveda dans son Démocrates, ou que l'évêque portugais Jerónimo de Osorio dans son De Nobilitate Christiana, entendent prouver l'inanité de tels arguments, alléguant les légions de soldats et chevaliers chrétiens ayant fait preuve de noblesse et de vaillance au combat. Notons que ces deux textes datent respectivement de 1535 et 1542, 10 ans et donc plus avant cette édition en espagnol des discours, hein, qui reproduisent tel quel ce passage qui a déjà, donc on vient de le voir, reçu un accueil plus que glacial parmi les intellectuels ibériques. Et Giuliano Procaccio de noter avec une certaine ironie à ce sujet « Né il Sepulveda, né il Portoghese Osorio, erano stati profeti in patria ». Néanmoins, avec l'abdication de Charles Quint en 1556, le contexte va radicalement changer, et avec lui l'apparente bienveillance de l'Espagne pour les ouvrages de Machiavel. Comme le souligne Elena Puigdomènech Forcada, avec l'abdication de Charles Quint, s'éteint le rêve d'une possible conciliation entre catholiques et protestants, quand avec Philippe II commence le temps de l'intransigeance, à l'image de cette pragmatica du roi très prudent en date du 13 septembre 1558, qui interdit sous peine de mort et de saisie des biens tout libraire ou autre personne qui amènerait dans les territoires de la couronne des livres en romance imprimés hors des royaumes espagnols, ne portant pas donc la licence royale. Dans ces conditions, et après l'index du cardinal Quiroga de 1583, donc qui entérine la prohibition des œuvres du corpus machiavélien, même sous forme expurgée, il n'est guère étonnant de trouver les mentions manuscrites suivantes sur la page liminaire de l'exemplaire de ces discours sur Zote Vanti, se trouvant dans la bibliothèque de l'Escorial, Autor Damnatus et Prohibito. Toute traduction des œuvres de Machiavel sera désormais proscrite, d'où le caractère privé et anonyme de la traduction qui va nous intéresser à présent. Alors, je vais tâcher d'être succinct au sujet de cette traduction manuscrite anonyme du prince, donc la troisième étape de notre étude, qui se trouve à la Bibliothèque nationale d'Espagne, qui est numérisée, est accessible à tout le monde, cataloguée comme MS 1084. À noter que ce volume contient également une compilation d'aphorismes extraits d'autres œuvres du corpus machiavélien, à savoir les discours, la vie de Castruccio Castracani et l'histoire florentine. La question est encore ouverte quant à la datation exacte de ce manuscrit, sur l'édition exacte du texte traduit, et naturellement sur l'identité du traducteur, qui reste un mystère. L'anonymat de ce dernier en dit long, dans tous les cas, sur le climat d'hostilité qui pèse, après 1583, et l'index donc du cardinal Quiroga, sur les œuvres du secrétaire florentin. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une traduction privée et personnelle, instrumentale, hecha por puro placer o dedicada quizá a algún tratadista político interesado en las teorías de Machiavelli e incapaz de leerlo directamente en su idioma original, dans les mots de Elena Puigdomènech Forcada. Nous ne nous attarderons pas sur la traduction en elle-même, dans la mesure où, de mon jugement et de celui de la critique, il s'agit d'une bonne traduction, témoignant d'une connaissance assurée de l'italien de la part du traducteur, en dépit de quelques erreurs très secondaires. Maria Begonia Arburu Barturen note à ce sujet « Se trata de una traducción bastante fiel al original, tanto en la forma como en el contenido » et pour ma part, je souhaiterais brièvement attirer votre attention sur deux éléments essentiels, les quelques commentaires marginaux qui émaillent le texte, et également quelques choix de traduction. Les commentaires du traducteur sont certainement, je crois, les éléments les plus fascinants de ce manuscrit et nous éclairent finalement sur les préoccupations politiques d'un potentiel érudit espagnol de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle, et en particulier sur ce qui pouvait précisément intéresser un lecteur espagnol chez Machiavel. Certaines de ces remarques sont d'ordre général, je ne vais pas toutes les recenser, je vous rassure, mais certaines de ces remarques sont d'ordre général. Par exemple, notre traducteur approuve l'opinion exposée dans le chapitre 21, selon laquelle la neutralité est en tout point délétère à celui qui la pratique. Je cite, c'est dans la marge, « Gran razón de estado, se saca de aquí la neutralidad, pierde al amigo y no obliga al enemigo. » Ces commentaires peuvent également avoir une certaine valeur herméneutique, tentant d'éclairer ou d'étayer quelques passages du prince. Par exemple, notre Florentin, dans un passage très célèbre du chapitre 15, annonce qu'il laissera de côté les abstractions chimériques des œuvres représentant des républiques et des princes parfaits mais inadaptés au réel, et préférera se pencher sur la verità effettuale de la cause. Si Machiavel ne nomme pas les auteurs dont il se moque dans cette page, notre traducteur anonyme tentera d'élucider l'identité possible des auteurs visés ici, et je cite « Puede ser que aluda a la utopía de Tomás Moro, y según la opinión de algunos de Ciropedia. » Alors je ne suis pas pour ma part sûr ni de l'un ni de l'autre, en particulier concernant la Ciropédie de Xénophon, un texte qui figure en effet parmi les références favorites de Machiavel. Concernant ce même chapitre, je ne peux pas omettre ici de mentionner qu'il contient un autre des passages les plus célèbres de la pensée machiavélienne, que je cite ici dans sa traduction très fidèle espagnole. « Un hombre que quiere hacer en todas las partes profesión de bueno, conviene que se arruine entre tantos que no son buenos, de donde le es necesario a un príncipe, queriéndose conservar, aprender ser no bueno y usarlo y no usarlo según la necesidad. » Bon, c'est intéressant, mais c'est surtout ce qui est intéressant également ici, c'est que le passage est souligné en plus dans le manuscrit, la traduction manuscrite. Cependant, ces notes peuvent avoir aussi une dimension plus concrète, à l'image de celle que l'on trouve en marge du troisième chapitre, dans lequel Machiavel loue le recours aux colonies comme moyen efficace de se maintenir dans un état que l'on vient d'annexer. Elles sont peu chères, rentables, sûres, puisque l'on n'offense que ceux que l'on dépossède, lesquels restent trop faibles et divisés pour vous nuire en retour. Quant aux autres, ils ne sont pas offensés et se tiendront tranquilles. Et l'autre traducteur de noter à ce sujet, Gran ejemplo, Catalogne. Je clôturerai cette courte étude du manuscrit 1084 en soulignant deux intéressants choix de traduction qu'il contient. Tout d'abord, il est curieux de voir comment notre traducteur choisit de rendre l'italien Marani. Hein, précisons que, dans le chapitre 21 du Prince, Machiavel analyse les raisons du succès de la politique centralisatrice de Ferdinand le Catholique, dont l'expulsion des Juifs de 1492, événement qu'il juge par ailleurs d'une pietosa crudeltà, hein, lui ayant permis de faire main basse sur leurs biens sous couvert du prétexte de pureté religieuse. Toutefois, le traducteur choisit de rendre Marani par Moriscos, hein, deux réalités extrêmement différentes. Peut-être a-t-il en mémoire, comme me le suggérait Olivier Brisville dans une conversation récente, l'expulsion des Morisques de 1609. Hein, et donc, du coup, cela nous permettrait éventuellement de dater cet épisode, mais cela reste vraiment une pure supposition, hein, difficile à étayer, de ma part en tout cas. Enfin, le dernier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention est la difficulté manifeste à laquelle est confronté le traducteur face au concept machiavélien de virtu. Il s'agit d'une notion au contenu sémantique protéiforme, souple et malléable, plurale, pour reprendre la formule de Jean-Louis Fournel, dont le sens dépend souvent chez Machiavel du contexte dans lequel il est employé. Selon Félix Gibert, que je traduis ici, il s'agit de la qualité fondamentale qui permet à l'homme d'accomplir de grandes actions et de grandes œuvres. Machiavel semble faire fi de sa dimension chrétienne et morale et renvoie en réalité à la racine latine vir, hein, le propre de l'homme. Autrement dit, son courage et son esprit d'entreprise, sa vaillance et sa force de caractère, auxquels viennent s'ajouter l'habileté politique, la valeur militaire, l'énergie et la bravoure. Le syntagme couvre d'autres réalités chez Machiavel, naturellement, mais nous nous intéresserons seulement à celle de l'individu d'exception, le vrai sujet du prince, mu de cette ardeur indispensable aux hommes politiques pour résister au coup de la fortune, et même, éventuellement, l'emporter sur elle, dans les mots de Christian Beck. La nouveauté sémantique de la virtu ne manque pas de laisser perplexe notre traducteur, hein, qui aura tendance à la traduire alternativement par virtud, avec un D en espagnol, et par valor, en fonction du contexte, et même parfois il va mettre les deux mots l'un à côté de l'autre. Prenons comme exemple le chapitre 8 du Prince, dans lequel Machiavel étudie le cas d'hommes arrivés au pouvoir par le biais de scélérates, hein, maldades en espagnol, en prenant comme exemple le cas de l'aventure d'Agathocle, hein, le tyran de Syracuse. Dans ce passage, Agathocle apparaît comme un personnage fourbe, excessivement cruel, mais également valeureux et énergique. Machiavel reconnaît alors que la virtu d'Agathocle a certes pu lui amener le pouvoir, mais elle ne lui apportera certainement pas la gloire. Je cite ici la traduction du manuscrit 1084. « No se puede tampoco llamar valor. Matar sus ciudadanos, donc valor, virtud, hein, valor, ici, valor, matar sus ciudadanos, ser traidor, entregar los amigos, no tener fe ni piedad ni religión, modos que pueden adquirir imperios, pero no gloria. Porque si se considera, c'est la virtud, ici, d'ailleurs, je note que virtud est souligné, et dans la marge, il y a écrit valor à côté, se considera, c'est la virtud de Agatocles, en entrar y salir de los peligros, y la grandeza de su ánimo, en tolerar y vencer las cosas adversas, no se hallará porque haya de ser tenido por inferior a otro cualquiera capitán excelentísimo. Con toda su crueldad inhumana y fuerza cruel, con infinitas maldades, no consienten que sea celebrados entre los hombres grandes, no se puede pues atribuir a la fortuna o al valor, virtud en italien, valor, lo que él consiguió sin una y sin otra. Il apparaît clair que le traducteur semble profondément douter au moment de traduire cette problématique virtud, hein, un détail qui, rappelons-le, n'avait pas troublé outre mesure le traducteur florentin des discours de Machiavel, Juan Lorenzo Tevanti, peut-être plus familier avec cette terminologie de saveur florentine, puisqu'il le traduisait simplement, je vous le rappelle, par Bielsoud. Dernier indice de cette perplexité, la traduction en doublon, hein, lorsque notre anonyme rend un passage du prince, où on nous dit, on parle de la Virtutua originelle, qui est rendue en espagnol par Tu valor, avec un B d'ailleurs, Tu valor y virtud. À l'actif du traducteur, notons que parmi les définitions de virtud proposées par le Tesoro de la lingua castellana, on peut lire, hein, parmi d'ailleurs, pas les premières naturellement, no tener un nombre de virtud a veces significa no tener vigor ni fuerza, ou semblablement, parmi les exceptions du Diccionario de Autoridades, on peut trouver fuerza, vigor ou valor, hein, mais naturellement, pas parmi les premiers. Alors, quelques brèves remarques, naturellement, avant de conclure cet exposé. Deux autres traductions manuscrites du prince du XVIIe siècle nous sont parvenues, toutes deux se trouvant à la Bibliothèque nationale d'Espagne. La première est incluse dans un volume inédit datant de 1680 à Rome, et la seconde a été faite par Juan Vélez de León sur demande de Charles II, qui souhaitait le comprendre plus précisément. Il faudra dans tous les cas attendre 1821 avant qu'une apparaisse en Espagne une nouvelle traduction en espagnol d'une œuvre de Machiavel, en l'occurrence celle du prince, de la main d'Alberto Lista. Donc, vous voyez, cet interdit a relativement fonctionné, en tout cas dans les faits. Cependant, en dépit toutefois de cet interdit qui pèse sur Machiavel, ses œuvres continueront à circuler dans l'espace ibérique, hein, puisque comme je le mentionnais, la version de Diego de Salazar de l'art de la guerre sera à nouveau publiée en 1590, l'identité réelle de l'auteur de ce traité n'ayant pas encore, semble-t-il, été élucidée par l'Inquisition. De même, contribuera amplement à cette circulation le plagiat en règle dont les traités du Florentin vont faire l'objet tout au long du siècle d'or. On ne peut pas se réclamer de l'autorité de Machiavel, donc on le plagie, on le recopie, on le réadapte ad nauseam, mais ceci est une autre histoire. Maints textes qui n'ont de cesse d'afficher d'ailleurs un anti-machiavélisme sourcilleux sont en réalité truffés d'emprunts plus ou moins littéraux à Machiavel. J'achève ici en disant finalement ces traductions espagnoles nous en apprennent moins sur Machiavel lui-même que sur ses lecteurs espagnols.